Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 8 du podcast D'un bout à l'autre, une présentation et une production du Club École. Allez vous abonner sur les plateformes Twitter, Facebook, Instagram du Club École et si le cœur vous en dit, un petit don sur Patreon pour nous aider à maintenir nos activités quotidiennes. Cette semaine, d'un bout à l'autre, en intro, j'ai pas grand-chose. J'ai eu une grosse semaine sur le plan de l'école, un gros reportage à produire et sur le plan professionnel également. Donc, j'ai pas porté une attention particulière à l'actualité sportive. Donc, j'ai pas grand-chose à dire. D'autant plus que mes chroniqueurs de cette semaine sont A+, je dirais. Des fois, il y a des chroniques dont je suis moins fier, mais que je mets quand même, là, comme quand Bruno vient à l'émission habituellement. Je lui ai offert, il fait ses affaires, puis c'est correct. Mais cette fois-ci, je suis vraiment, vraiment content d'avoir les quatre personnes, les quatre chroniqueurs de cette semaine. Donc, j'ai même pas le goût de faire une intro, j'ai le goût qu'on y aille directement parce que ça couvre quand même assez bien ma semaine. Ce que j'ai vécu, peut-être parler des qualifications, en fait, des matchs internationaux. C'est pas mal ce que j'ai regardé en fin de semaine. Mais j'ai pas tant envie d'en parler pendant la semaine. Fait qu'on en parlera pas, puis on va tomber directement dans les chroniques. C'est le Masters de golf qui commence, et comme à son habitude, qu'il y a un événement sportif de la sorte et que je ne sais pas à qui mandater pour en parler, ben c'est Yoann Carrière qui sera là pour nous parler du Masters. Discussion très intéressante. Aussi, nous dresser un portrait là, de la saison de la PGA, un peu ce qui se passe. Ça va être la première chronique. On a Louis Collat du centre d'entraînement Catalysis que j'ai déjà reçu d'un bout à l'autre, épisode 2 ou 3, pour, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Était venu parler un peu de son initiative sur les réseaux sociaux et justement avait parlé de quelques athlètes noirs montréalais ou même québécois qui l'ont marqué ou qui ont marqué dans sa recherche. Donc c'est Louis qui va revenir. Louis qui, justement, j'avais dit, est propriétaire d'un gym et va venir nous parler un peu de comment ça s'est passé cette semaine de son côté. Parce que les gyms ont réouvert vendredi dernier. Donc, je voulais parler à quelqu'un de l'intérieur, savoir comment lui s'était passé l'organisation. Puis, ben, évidemment, malheureusement, on n'a pas eu le choix d'aborder le sujet du méga gym 24 heures qui est responsable de plusieurs cas d'éclosion dans la ville de Québec. Donc, c'est sûr qu'on va parler avec lui, mais on parle aussi là, de justement comment au niveau logistique ça a été compliqué puis comment il s'est senti, lui. Avec l'ouverture de son gym, donc discussion très intéressante. Évidemment, les semaines après les télé à la carte, les événements télé à la carte de l'UFC, il y a Faberglass qui vient nous en parler. Donc, la semaine dernière, on a eu l'UFC 260 Miocic contre Ngannou 2. Je ne vendrai pas le punch de qui a gagné si jamais vous avez pu nous. Si jamais vous n'avez pas vu l'événement. Mais on va en parler, aussi de quelques combats qui ont retenu mon attention sur cette carte-là, notamment la victoire du Québécois Marc-André Barriot face à son adversaire Abou Azaitar. Quel beau combat j'ai... Ben, pas nécessairement beau combat, mais quel combat! Et j'ai adoré ce combat-là. Donc Faber vient nous dresser un peu le portrait de la situation et de ce qui nous attend du côté de l'UFC dans les prochaines semaines. Avant le prochain événement, l'UFC 261 qui va être présenté à Jacksonville dans un aréna plein qui s'est vendu en quelques minutes à peine, qui va être sold out. Super spreader time, on a hâte de voir ça. Et en terminant, on reçoit Mathieu Dastou qui est mon ami, qui fait de la chronique également, qui faisait la chronique à l'époque où on était à choc, à l'époque où le Football Club était à choc et qu'il n'y avait pas de pandémie. Donc, Mathieu qui vient nous présenter les meilleures initiatives sportives du 1er avril. Initiative ou plus gag, là, parce que le 1er avril sur les réseaux sociaux, c'est le moment où les organisations, les équipes, même les athlètes vont nous faire quelques coups pendables, subtils ou non, mais on apprécie quand même. Puis Mathieu, que j'adore, est venu résumer ça en punchant un peu. J'ai vraiment aimé notre 15 minutes passées ensemble. Faut juste dire, puis je l'ai dit aussi au début de l'entretien, là, on a un petit, même pas une demi-seconde, là, on a un petit quart de seconde de décalage. Donc, c'est à peine perceptible, si seul l'est. Mais j'aime mieux juste avertir là, parce que oui, on en était conscient, mais une demi-seconde, c'était un peu agaçant, mais on s'en sort quand même assez bien. Donc voilà, c'est le planning de cette semaine. Je suis vraiment content d'avoir ces quatre amis-là avec moi. Puis, j'essaie de regarder. Honnêtement, j'ai vraiment rien à jaser. Je me trouve vraiment plate, mais j'ai vraiment passé la semaine à faire des topos pour l'école, à faire des travaux pour l'école. Fait que j'ai pas. Puis, tu sais, il n'y avait pas de soccer anglais, pas de soccer de club. Donc, c'est sûr. Je pense qu'on va commencer tout de suite à Q1. OK. Ciao. Alors, toujours avec Johan Carrière qui vient nous parler d'un sport différent. On est rendu comme au 8e épisode ou 9e, puis c'est comme ta 6e participation d'un bout à l'autre. Ça ressemble à ça?
Ouais, à peu près. Là. Écoute, je vais pas te mentir. Là. Je commence à manquer là, de sports dont je peux parler assez facilement et qui sont d'actualité en ce moment. Là, donc,
mais c'est ça, parce qu'on réussit tout le temps à trouver comme quelque chose pour un contexte au moins pour que tu viennes nous parler de sports justement différents. Puis cette semaine, tu nous parles du golf. Mm-hmm. Si c'est un sport pour certains, non, on n'embarque pas là-dedans du tout. petite dédicace à ceux qui les détracteurs du golf. Mm-hmm. La PGA, qui est puis encore une fois, à chaque fois que je te parle, je connais à peu près rien de ce sport-là. Donc, tu viens vraiment m'expliquer tout ça. Donc, la PGA, qui est le gros circuit professionnel de golf, a une saison, puis on est directement dedans. Comment ça se passe la saison de PGA en 2020-2021?
Ben écoute, la saison 2021 est encore jeune quand même. Là, le golf, ça s'arrête jamais vraiment parce que l'année dernière, il y a eu une petite pause en raison de la COVID, bien sûr, mais il y a toujours une place dans le monde où il y a un terrain de golf puis il fait beau.
Oui.
Ça, le circuit se déplace. Donc, il va y avoir des tournois au mois de novembre puis au mois de décembre. La saison va se finir. Ça repart deux semaines après, au mois de janvier.
Fait que c'est pas long, là.
Non, il va y avoir des pauses à certains moments dans l'année. L'affaire qui va être, pourquoi on dit des pauses toutes, le circuit n'arrête pas, mais c'est un petit peu comme au tennis. Il y a des plus petits tournois, des tournois où ce que les gros joueurs ne vont pas parce que c'est des tournois qui ne valent pas grand-chose. Donc, il y a des tournois à longueur d'année, mais des vrais gros tournois qu'on suit, ça, il n'y en a pas toujours. Il n'y en a pas toujours tout le temps.
OK. Est-ce que ça fonctionne avec un système de points comme au tennis? Ou est-ce qu'on va défendre nos points?
Oui, c'est très similaire. C'est des points que tu remportes à chaque tournoi que tu vas chercher, selon ta position au classement également, ben, la bourse que tu reçois t'est remis également. Même chose qu'au tennis également, il y a 4 tournois majeurs. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, oui. Parce que le premier s'en vient très prochainement. En plus de ça, ben, au tennis, on va avoir, après les tournois du Grand Chelem, on va avoir les tournois Masters 1000, qui sont les autres tournois qui valent le plus de points. Ben, au golf, là, c'est un petit peu différent. T'sais, on va avoir un autre set de 4 tournois qui est comme des tournois un petit peu moins majeurs, mais qui pourraient tous être des tournois du Grand Chelem si on voulait. Mm-hmm. Donc, c'est très... Le golf, on le dit souvent, c'est un sport qui est très, très conservateur, très axé sur la tradition. Donc, c'est un concept là, qui est le même depuis vraiment très longtemps.
Mm-hmm. Cette année, c'est qui le meneur, c'est qui le favori? Qui est en tête cette saison au moment où on se parle en PGA?
Si on fait juste regarder le classement là, chez les joueurs, le premier mondial, c'est encore et toujours Dustin Johnson. Okay. C'est lui qui est l'homme à battre au golf présentement. Justin Thomas, qui pointe mine de rien au troisième rang, connaît une excellente saison à date. Par contre, là, pour Dustin Johnson, bon, c'est sûr, comme je disais, c'est tôt dans la saison, donc il n'a pas pris part à tant de gros événements que ça. Donc, la liste de tournois qu'il pouvait gagner se voit réduite. Justin Thomas, lui, par exemple, c'est ça. Quand ça compte, il va bien. J'ai parlé également à retour en force là, dernièrement de Colin Morikawa, qui lui, ben, c'est ça. Connaît également là, un très bon début de saison 2021. Ça fait partie là, des joueurs là, qui vont être à surveiller au tournoi des maîtres la semaine prochaine.
Moi, j'ai un préféré que je n'ai jamais vu jouer, mais juste pour son nom, qui a une vibe tellement le fun, Bryson DeChambeau.
Ben oui. Ben, Bryson DeChambeau, combien de fois j'en ai parlé? Moi aussi, c'est mon préféré, juste par son nom.
Ça me rend heureux, toutes les syllabes qui se mêlent entre elles, mm-hmm. qui fait un tout complètement incroyable. Comment se porte Bryson DeChambeau?
Ben, Bryson DeChambeau, tu sais, c'est un joueur unique là, sur le tour, pas juste par son nom, par son style et son approche. Au golf en tant que tel, là, pour ceux qui ne connaissent pas, Bryson DeChambeau, il y a 4-5 ans, était un grand slack. Là. Il était fait un petit peu sur la même shape que Étienne et moi, là, si oui, on veut.
Pour ceux qui ne nous ont jamais vus, on peut s'imaginer.
Oui, c'est ça. À un moment donné, il a décidé que lui, il allait avoir une approche complètement différente du golf, que son objectif, c'était de son coup de départ, dévisser la balle le plus loin possible pour idéalement pas avoir à jouer dans l'allée puis essayer de réduire les coups qu'il a à frapper.
C'est quasiment à Pigelmore comme technique. Là.
Ouais, essentiellement, c'est ça. Chose. Sauf que lui, ben c'est ça, c'est plus réaliste.
Oui, oui, ben
Pigelmore,
ouais.
il prend pas un gros élan pour...
on peut comprendre.
Il fait pas deux pas avant de frapper. Mais donc, Bryson DeChambeau a essentiellement doublé en masse musculaire, s'est rendu un mastodonte. Là. Il est très impressionnant comme personnage. Et ben c'est ça qu'il fait. C'est frapper la balle loin et très loin. Et ben ça, c'est quelque chose qui est quand même pas négligeable dans un tournoi comme le tournoi des maîtres, qui est un parcours qui est quand même très long. Hein. Il y a beaucoup de trous qui sont au-dessus de 500 verges, beaucoup de par 5 et de par 4, assez longs. Donc, c'est là où des gros cogneurs, si on peut les appeler comme ça, comme Bryson DeChambeau et Dustin Johnson, ben, vont chercher un petit avantage là, sur les autres compétiteurs. DeChambeau, cette année, ça se passe bien. Ça se passe bien pour lui. Pas de grosse victoire de son côté jusqu'à date, mais assurément un des favoris pour le tournoi des maîtres.
The Scientist, Bryson
oui,
DeChambeau.
Exactement.
Tournoi des maîtres. Qui est, de ce que je comprends, le gros tournoi qui va commencer la semaine prochaine, le 11 avril, donc dimanche.
C'est le 8, en fait. Ça termine le 11.
Ouais. Ah, mon Dieu, oui.
Ça commence le jeudi, ça termine le dimanche.
Ah, bon, ben c'est bien parfait, parce que là, je me disais qu'on était une semaine en avance, mais c'est bien parfait si ça commence justement le 8, qui va être, je crois, jeudi.
Exact. Ça commence le jeudi, ça se termine le dimanche. Il y a 4 rondes en tout.
Qu'est-ce qui. À quoi on peut. Peux-tu juste en premier lieu me parler de ce tournoi-là? Ça semble être le plus gros de l'année. Est-ce que c'est vraiment un happening, le Masters? Puis là, ceux qui trippent le golf vont vouloir m'arracher la tête, mais qu'est-ce que ça représente, le Masters?
Ben, le Masters, là, tu sais, je disais, là, le golf, c'est un sport très traditionnel, très conservateur. Le tournoi des maîtres ou le Masters, appelez-le comme vous voulez, c'est la parfaite représentation de la tradition dans le golf pour une raison majeure. C'est le seul tournoi de la PGA qui est disputé sur le même terrain à chaque année. Donc, au club de golf national de Augusta en Géorgie, ce terrain-là est devenu mythique à la fois pour les fans que pour les golfeurs en tant que tels. Tout le monde qui joue au golf, la majorité des golfeurs savent que ce serait une perte de temps parce que ça coûte trop cher, puis ils feraient un score pas bon. Mais tout le monde rêve de jouer sur ce terrain-là. C'est le terrain de golf. Donc, c'est sûr que oui, c'est un happening de ce côté-là. Ensuite, ben, il y a tout le... Tu sais, ce terrain-là existe depuis maintenant 88 ans. Ça fait 88 ans qu'on joue dessus. Tous les gros noms du golf ont remporté ce tournoi-là. Tu as toute la tradition autour du fameux veston vert également. Le gagnant du tournoi des maîtres se mérite le fameux veston vert. Ça en soit un autre bel exemple de la tradition. On pourrait parler juste de la tradition qui entoure du tournoi des maîtres pendant des heures et des heures. C'est assez spécial.
J'ai vu passer aussi que je crois que le gagnant doit payer le lunch, doit payer le souper.
Le gagnant choisit le menu de ce qu'ils appellent le souper des champions, essentiellement. Donc, avant le début du tournoi, il y a un repas dans lequel sont invités tous les champions précédents qui sont encore en vie.
Okay.
Ainsi que certains membres là, du comité exécutif de la PGA et du club d'Augusta. Parce que, fait intéressant aussi, le tournoi des maîtres, c'est le seul tournoi de la PGA qui est organisé par un club privé et non par la PGA elle-même. Okay. C'est pour ça que ça se joue sur le même terrain à chaque année. C'est parce que c'est carrément organisé par le club d'Augusta.
Donc, la monarchie.
Oui, exactement. Oui. et c'est ça, le champion en titre là, peut choisir le repas pour ce tournoi-là. D'ailleurs, ben, cette année, c'est Dustin Johnson qui a choisi le menu parce qu'il est champion en titre. Là, on se souvient, l'année dernière, il avait remporté de façon assez magistrale avec un impressionnant moins 20, 5 coups d'avance là, sur son plus proche poursuivant. Et ben, quelque chose qui est spécial, je t'avais parlé de la COVID tantôt, mm-hmm. On a repoussé le tournoi parce que à ce temps-ci, l'année dernière, on était en confinement, il n'y avait pas de sport, il n'y avait rien.
Ben oui.
Donc, le tournoi s'est joué au mois de novembre. Donc, ce tournoi-là, d'habitude, revient toujours la deuxième fin de semaine d'avril. Et là, cette année, il n'y a même pas 6 mois qui se sont écoulés depuis la dernière édition.
Ah ouais, hein?
C'est assez unique là, comme situation cette année.
C'est très intéressant. Donc, comme il n'y a pas de... Habituellement, on l'attend aux années, mais là, ça fait pas si longtemps que ça que c'est arrivé. Donc, peut-être justement plus parti. Là, je regarde le score de Dustin Johnson de l'année dernière, 268 et moins 20, c'est les records du circuit.
Exact.
Le record pour le nombre d'écarts appartient à Tiger Woods en 97, 12 coups d'écart.
Ouais, c'est spécial. Ça ne sera pas battu cette année non plus, là, je te le confirme.
Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Dustin Johnson répète l'exploit encore une fois cette année? Ou ben, il y a d'autres...
C'est sûr qu'il est parmi les favoris. Tu ne peux pas le négliger. Dustin Johnson, c'est un de ces golfeurs-là qui, dans ces gros événements-là, performe ridiculement bien. S'il le remporte, je crois, là, si mes notes sont correctes, il va devenir seulement le 4e golfeur à remporter ce tournoi-là 2 années de suite. Ce qui n'est pas rien quand même. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que c'est un gros tournoi en termes d'importance, mais c'est un petit tournoi au niveau du nombre de golfeurs qui y participent.
Okay.
On parle d'une liste là, de je crois 92 ou 90 là, golfeurs, 92 qui participent au tournoi seulement. Puis on en coupe un petit peu moins que la moitié. Après les deux premières rondes. Donc, pas beaucoup de joueurs qui peuvent être vraiment prétendants. Par contre, ben c'est ça. T'sais, les noms qu'on mentionne depuis tantôt, ce sont eux qui sont à surveiller. Dustin Johnson, c'est sûr qu'il part en étant favori. Bryson DeChambeau également, Justin Thomas. Faut pas négliger non plus là, les... Je dirais pas les vieux routiers, là, mais ceux qui sont là depuis un certain temps puis qui connaissent le parcours très bien. Tu sais, les John Rahm, les Jordan Spieth, Rory McIlroy, Brooks Koepka, Tony Finau. Ce sont tous des golfeurs qui ont le potentiel d'aller remporter le tournoi également. Si j'avais à miser sur quelqu'un, ce serait Dustin Johnson ou Justin Thomas. Personnellement, ce serait ces deux-là sur lesquels je miserais, considérant là, la saison qu'ils connaissent. DeChambeau, pas à négliger non plus.
Hey, non,
oui,
ben
j'ai
là,
une affection sur ce golfeur-là. Mais, tu sais, manque un petit peu de constance, là. Donc, quelle sorte de performance est-ce qu'il va être en mesure d'offrir la fin de semaine prochaine? Ça reste à voir.
Mm-hmm. Et dernière question, est-ce que, justement, c'est un tournoi un peu baromètre pour le reste de la saison? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le gagnant remporte l'espèce de PGA à la toute fin ou c'est pas vraiment un indicateur de...
Pas vraiment, tu sais, il y a beaucoup trop de facteurs qui rentrent en considération dans un tournoi de golf. Jamais tu vas avoir les mêmes conditions météorologiques, jamais. Ça se peut qu'un golfeur ait une mauvaise ronde. Mm-hmm. Puis, donc, ça se peut que, par exemple, Dustin Johnson joue vraiment mal vendredi,
oui.
puis qu'il joue son meilleur golf en carrière samedi et dimanche, mais qu'en raison de sa ronde de vendredi, il gagne pas le, il gagne pas le tournoi. Ça se peut tout ça. Donc, est-ce que c'est un indicateur? Ben, c'est sûr que généralement, les golfeurs qui vont être bons à Augusta, c'est les meilleurs parce que c'est un parcours assez unique, surtout sur les verts. Les verts sont très difficiles à négocier à Augusta, là, des verts très solides et très rapides également. Donc, c'est des bons golfeurs qui gagnent Augusta. C'est pas monsieur, madame, tout le monde là, qui vont chercher ce tournoi-là. Est-ce que le golfeur qui gagne Augusta, le tournoi des maîtres, devient nécessairement champion de la PGA à la fin de l'année? Non, mais généralement, c'est que ça va être un bon prétendant.
Bien, on regarde ça assurément. C'est du 8 au 11 avril, le tournoi des maîtres d'Augusta en Géorgie. Et on encourage, bien sûr, Bryson DeChambeau. Merci beaucoup, Yoann Carrière.
Ben, ça fait tout.
Louis Colla, propriétaire du centre d'entraînement Catalysis, vient nous parler de sa dernière semaine. Salut Louis, comment ça va?
Ça va très bien, merci Étienne. Et toi?
Ça va bien. Je te repose la question une deuxième fois, mais avec un petit peu plus d'intensité.
Ouais.
Comment ça va?
Ça va. Écoute, ça a été une semaine autant... Honnêtement, je vais te raconter en fait mon jeudi soir.
Oui, oui.
On réouvrait vendredi le 26. Puis toute la semaine d'avant, tout le monde me disait « Ah, t'es-tu excité, les gyms rouvrent? » Puis j'étais comme « Ouais, mais tu sais, un incertain, là, tu sais, comme tu sais, chaud et chaudé un peu. » Fait que là, on va voir. Puis pour de vrai, c'était très drôle parce que là, jeudi soir, tout d'un coup, j'ai commencé à être vraiment fébrile. J'avais le même feeling. J'ai joué beaucoup au soccer. Puis le sport où est-ce que j'ai le plus été loin en compétition, c'est au ballon sur glace.
Okay.
Puis là, le soir, j'avais le même feeling que la veille de partir pour un championnat canadien.
Okay.
Fait que cette espèce d'excitation de « Oh my God! » comme demain, qu'est-ce qui revient? Puis c'est drôle, mais j'avais ce même feeling-là rendu ben, jeudi soir. Hot. Écoute, j'étais comme excité. C'était weird.
Ouais.
Vendredi matin, j'ouvre mon gym, moi, on ouvre à 5h30. Okay. Fait que normalement, ma routine, je me réveille vers 4h30, commence à préparer mes choses, je pars dans la maison à 5h. Et là, à 3h du matin, tings, les yeux grands ouverts. Les yeux grands ouverts, mais comme pas genre, je me suis réveillé, j'ai vu l'heure, je me couche. Non, comme,
non, il n'y a rien à faire.
Dodge. Je suis quand même resté couché jusqu'à 4h30, mais écoute, je suis même parti, je pense que j'ai été illégal, j'espère que les autorités n'écoutent pas.
Ça devrait être correct.
À 4h50. Puis là, je mets, j'étais comme, shit, il y a un couvre-feu normalement jusqu'à 5 heures. Sur la route.
On pense pas. Ben pour un 10 minutes quand tu t'en vas au travail, j'imagine que.
C'est moi, ouais, c'est ça. Mais c'est rendu en chemin, je suis comme fait, oh shit, j'aurais pas dit.
Mais
écoute, ça a été ça. Ça a été la fébrilité. J'étais content de revoir les gens. J'ai beaucoup de gens avec qui j'ai parti dans un programme d'entraînement virtuel. Un programme d'entraînement en ligne durant le dernier confinement. Fait qu'il y avait beaucoup de mes clients avec qui j'avais gardé contact virtuellement. Mais tu sais, de les voir en vrai, comme je dis, de les voir en trois dimensions, de pouvoir moi faire le tour de eux.
dit comme ça. Fait que dans le fond, tu as vécu un stress, un trac, mais un bon trac, en sachant que, tu sais, ça se peut qu'il se passe n'importe quoi, mais ça va te donner de quoi, tu sais, ça va être cool. C'était, ah, nice, je suis content d'entendre ça.
Ça a été de revoir les gens. Principalement durant le premier confinement qu'on a eu le printemps dernier, je pense comme beaucoup de gens, ça a été une grosse remise en question. Puis moi, ce que j'ai réalisé que dans mon cas, ce que le gym amenait le plus avec la clientèle avec laquelle je travaille, oui, les bienfaits au niveau de la santé physique, au niveau bienfaits d'amélioration des capacités physiques, mais je pense qu'on le voit, mais on ne réalise pas encore l'impact social. Okay. L'être humain a besoin de contacts sociaux avec d'autres êtres humains. Puis c'est ça que je trouve, moi, la plus belle chose que le gym emmène. Parce que c'est vrai, je peux aller courir tout seul, je peux downloader une app puis bouger à la maison, ça c'est 100% vrai. Okay? Mais le simple fait, puis sans avoir de contact physique, mais simplement d'être avec un endroit avec d'autres personnes, en respectant les règles et tout ça, ça amène tellement tellement de bien, ça fait tellement du bien. Fait que moi, ça a été beaucoup ça, là, cette semaine.
Très cool. Je veux savoir comment, justement, tu as dit que tu avais un entraînement en ligne, tu avais un système, oui. Tu t'es occupé au moins pendant le confinement, tu as continué à travailler malgré le fait que le lieu physique a fermé. Peux-tu juste nous parler un petit peu plus de, c'était quoi ton initiative?
Oui, bien, pendant le premier confinement, ben, comme un peu tout le monde, j'ai été pris de court, fait que je me suis garoché un peu comme ce que beaucoup faisaient, c'est-à-dire, OK, ben, connectez-vous, ça va être un Zoom, puis regardez qu'est-ce que je fais, qui n'est pas vraiment ce que je fais normalement dans mon gym en salle. T'sais, moi, je fais vraiment j'ai un système très différent de ce qui se fait ailleurs. Je fais de l'entraînement personnalisé de groupe. Donc, les gens sont en petits groupes, des groupes de 3 à 6 personnes dans lesquels chaque personne a un plan personnalisé.
Oui.
Puis, ce n'était pas vraiment ce que j'offrais pendant le premier confinement. Puis là, quand le deuxième confinement est arrivé, pendant la réouverture l'été passé, je sais comment, je commençais à réfléchir à avoir une option en ligne et tout. Là, quand le deuxième confinement est parti, je suis comme, OK, go, on sort quelque chose.
Pas le choix, là.
Fait que ce que je faisais, les gens se connectaient à des heures précises. Donc, j'avais un horaire et les gens, c'était via Zoom, via l'application Zoom. Donc, il y avait possibilité d'échange. C'est pas juste les gens qui me voient. Moi, je les vois également et les gens peuvent se voir entre eux. Chaque personne, je leur envoyais leur plan. Donc, ils avaient chacun leur plan d'entraînement et je faisais la supervision du plan d'entraînement en groupe. Donc, ce qui était cool, c'est que eux, ben, en se mettant à l'horaire, ils avaient un certain commitment. OK, envers eux surtout.
Okay? Ben oui.
Pas envers moi, mais envers eux. Moi, je pouvais les voir. Donc, s'il y a des choses, s'ils ont des questions, des choses à corriger, je peux le voir. Eux peuvent me voir. Puis surtout, ils pouvaient se voir entre eux. Moi, je pense en particulier, j'ai une cliente qui demeure sur la Rive-Sud. Moi, mon gym est sur la Rive-Sud, demeure à Brossard. Puis elle a une de ses sœurs qui demeure à Montréal. Puis ça leur a donné l'opportunité de s'entraîner ensemble.
Nice.
Fait qu'ils ont repris ces habitudes-là qu'elles avaient quand elles étaient plus jeunes, puis elles étaient. Puis que là, maintenant, bon, la distance, vie de famille, etc., c'est plus possible. Ben, l'environnement virtuel permet à des gens, même s'ils sont très loin, de pouvoir continuer à s'entraîner ensemble. Ça, c'était vraiment le fun.
Au niveau de ta charge de travail, est-ce que c'était plus que ou égal à gérer le gym, le lieu physique, ou c'était pas mal la même chose? Ça ressemble à quoi?
C'est différent. C'est sûr, j'avais moins de monde en ligne. Y a des gens pour qui ben, là, en ligne ça leur faisait moins. Des gens en termes d'espace. J'ai un client qui avait commencé et dit ah ben tu sais, j'ai un 3,5, je suis tout le temps par le travail, tout le temps dedans. Ça le faisait moins. Donc présentement, j'avais moins de clients en ligne. Donc à ce niveau-là, un peu moins de charge de travail. Mais par contre, ça m'a permis donc bon, développer l'entraînement en ligne, puis j'ai même développé un système de bureau virtuel. Donc, j'ai lu ça, puis j'ai trouvé ça l'idée vraiment bonne. Un peu comme ben, les profs à l'université. Ton prof à l'université te donne un cours, mettons, tu as un cours de, peu importe, là, de mercredi de 8 à 11.
OK.
Mais si tu as des questions, il dit, ben moi, je suis à mon bureau le jeudi midi, puis le lundi de 4 à 5, puis vous pouvez venir me voir quand vous voulez à l'intérieur de ces plages-là.
Okay.
Donc, moi, à l'extérieur de mes plages, où est-ce que je suis connecté, je reçois des gens à l'entraînement virtuel. Ben, je pouvais recevoir des gens dans mon bureau virtuel.
OK, donc, fait que tu avais comme un Zoom d'ouvert.
Exact.
OK, cool. Tu peux faire tes choses en même temps, puis s'il y a quelqu'un qui se pointe. Ah, très cool, ça fonctionne là-dessus?
C'est tout nouveau. Fait que je pense au début, ça a pris une couple de semaines que les gens, c'est comme, OK, à quoi ça sert? Mais je pense tranquillement, les gens commencent à prendre l'habitude. Si on a des questions, je faisais tout dans la chat à la blague. Manque de motivation, votre objectif a changé, je me suis fait mal, je comprends pas mon exercice. Ou si tu veux juste jaser avec ton entraîneur aussi, tu peux, hein, c'est ta droit.
Ben oui.
Je faisais la blague en ligne. Je disais, yo, si vous avez vous voulez des idées recettes pour le souper, j'ai plein de bonnes idées.
nice.
Ouais.
Maintenant, aujourd'hui, je vais aller m'entraîner au centre d'entraînement Catalysis.
Ouais.
Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut que je prenne un rendez-vous? Est-ce qu'il faut que j'arrive avec mon masque, mon Purell? Comment ça fonctionne concrètement?
Super bonne idée. Ça aussi, ça fait partie. Tu parlais des choses que j'ai travaillées. Est-ce que je travaillais? J'ai beaucoup travaillé sur mon marketing, donc le behind the scenes. Donc, tout ce qui n'est pas opérationnel dans le gym. Mais à savoir c'est qui ma clientèle cible, comment bien définir qui je recherche, qui je peux réellement aider. Tout ça.
Des choses qui sont importantes, mais qu'on ne prend pas le temps de faire quand on est dans le day-to-day. Le nez dedans, ou est-ce que tu sais, on a vraiment d'autres choses à s'occuper. Quand on a le temps de le faire, c'est vraiment très important. Puis là, tu parles à un gars qui a étudié en gestion, donc
je peux imaginer le projet que vous avez, le club école, tu sais, au-delà de écrire le texte, oui, Mais comme pour que les gens le lisent, il faut savoir okay, à qui je market, etc. Fait que c'est tout le reste qui peut faire en sorte que ça explose. C'est pas juste, juste la qualité du texte. Puis c'est un peu la même chose dans l'entraînement. Oui, il y a un certain standard minimum à savoir comme quand tu entraînes les gens, voici qu'est-ce que tu as à faire. Mais pour que des gens sachent que j'existe, aient le goût de venir me voir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Okay? Donc ça, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus. Maintenant, il y a possibilité de, justement, les gens, « Ah, j'ai des questions, je veux savoir comment ça marche. J'ai une rencontre exploratoire que j'appelle, qui peut se faire, on a, avec la réouverture, qui peut se faire en personne. Mais maintenant, il y a possibilité aussi de le faire en ligne.
Okay.
Même chose. Donc, je peux prendre le temps, les gens veulent savoir comment ça marche chez vous, etc., avoir plus de détails. Ben, ils peuvent me rencontrer en ligne. Mm-hmm. Par la suite, au niveau, de, au niveau opérationnel, quand les gens rentrent dans le gym, comment ils sont, quand ils commencent à s'entraîner, ben, on respecte les règles de la santé publique. Donc, lavage de mains à l'entrée. Donc, il y a une bouteille de purée à l'entrée. Si les gens, quand une fois qu'ils sont membres, s'ils préfèrent, moi, je leur dis, tu sais, soyez intelligents. Si vous préférez laver avec de l'eau et du savon, vous pouvez vous rendre au vestiaire et laver avec de l'eau et du savon. Je ne jouerai pas à la police, soyez intelligent là-dessus. Port du masque en tout temps dedans. Ce que je fais par contre, là, le beau temps arrive, c'est le fun. Il y a certains blocs que je leur ai prédéterminés et les gens peuvent prendre leur équipement puis aller dehors. Donc, j'ai l'avantage d'être en banlieue. J'ai un petit peu d'espace dans le parking à côté dehors, j'ai un peu de pelouse en avant. Donc, si tu veux prendre tes équipements, aller faire tes trucs juste à l'extérieur pour retirer ton masque, tu peux le faire. Donc, j'ai eu cet avantage-là que j'ai une belle clientèle, les gens sont respectueux. Les gens, tu sais, il y a des gens qui, ça leur gossait le masque, mais ils ont préféré dire, écoute, Louis, je suis vraiment pas à l'aise de m'entraîner avec un masque, je préfère canceller mon abonnement. Puis tu sais quoi, j'ai pas le goût de m'ostiner non plus. Tu sais, je respecte que tu me le dis, je respecte que tu veuilles pas me faire chier. Donc, on va canceller ton abonnement. Puis, tu sais, comme ça, tous les deux, on comprend. Tu sais, personne n'a tort, c'est it is what it is. Donc moi, mes clients portent le masque à l'intérieur, se lavent les mains. Ils ont chacun une serviette en microfibre, un petit chiffon en microfibre. Okay. Il y a des bouteilles de désinfectant. Okay. Donc avant utilisation pour ta sécurité, après utilisation pour la sécurité de la prochaine personne, nettoie ton équipement. Puis j'ai pas eu de problème. Ben, j'ai pas eu de cas d'éclosion de 1. Ouais. Puis j'ai pas eu de gens qui. Les gens qui étaient récalcitrants étaient super ouverts. Ils disaient, regarde, j'ai pas le goût de le faire, fait que je préfère arrêter. Puis je respectais ça. Donc, une fois quand les gens sont embarqués, c'est ça. Étant un petit gym, je crois que les gens ont. C'est un peu comme si je vais chez toi. Si tu me dis quand tu viens chez moi, Louis, t'as pas le droit de porter de chaussettes, ben c'est chez toi, man.
Oui, exact.
Fat, you know?
Si t'as pas le choix, tu vas juste pas rentrer. Puis,
exact. Fait que, ayant cette proximité-là avec les gens, je pense qu'il y a il y a comme cet aspect-là. Je sais pas si ça a été pris au micro, mais c'est mon chien qui est en arrière et qui ronfle.
Ah, écoute, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a un téléphone qui vient d'allumer de mon côté. Donc, c'est parfait. Il n'y a pas de problème.
Donc, ça, il y a ce respect-là. Fait que ça va très bien à ce niveau-là.
Justement, depuis une semaine, on se parle, il est vendredi, l'épisode va sortir samedi. Ça se passe bien, pas de cas d'éclosion. Ben,
non.
J'allais dire pas de cas d'éclosion encore. Là, c'est pas ça que.
Je pense mais je comprends ce que tu veux dire.
L'éventualité, mais comme tout se passe bien.
Tout se passe bien. Puis, tu sais, une autre chose que je pourrais dire, d'exemple, j'ai une belle clientèle qui est très responsable aussi. Mm-hmm. J'ai deux clientes qui m'ont appelé. Je disais, je sais que j'ai rendez-vous aujourd'hui, mais j'ai été en contact. Je viens d'apprendre, j'ai été en contact avec quelqu'un qui a peut-être. Qui attend un diagnostic, donc je préfère pas venir à mon entraînement aujourd'hui. Tu sais, ils pourraient ne rien me dire, puis ils ont été pareils, puis je ne le saurais pas, mais ils sont responsables à ce point-là, fait que OK, c'est beau. Puis finalement, les deux, la personne avec qui ils ont été en contact s'était avéré négatif, mais j'ai fait que non, à date, ça se passe très bien.
J'ai l'impression que ça va avec la gestion, ça va avec le propriétaire, ça va. Puis, tu sais, là, je te lance des fleurs de ce côté-là, mais il y a eu d'autres gyms à Montréal. Tu sais, j'ai un ami qui est allé dans un gym à Montréal vendredi, il a dit « j'y retourne pas avant d'être vacciné ». Il n'y a aucune chance que j'y retourne parce que c'est free for all, le monde parle, pas de masque. J'ai pas le choix de puis si tu veux pas qu'on aille là-dessus là, en détail pour obliger, là, mais j'ai pas le choix de parler du méga gym. 24 heures à Québec, qui est responsable de 141 cas à l'heure d'aujourd'hui. Là, ça continue à augmenter. Des cas qui sont liés à l'éclosion dans ce gym-là.
Ouais. Je crois que ça va avec la gestion, ça va pas avec... Oui, vas-y, vas-y.
C'est un... Puis écoute, je ne le connais pas personnellement, fait que je veux pas parler...
Mm-hmm. Ouais,
ouais. Je veux pas dire c'est un ceci ou c'est un cela, je le connais pas. Je connais son nom et that's it. Mm-hmm. Mais si, mettons, comment je pourrais dire, COVID à part.
Oui, oui, oui.
Oui, tu sais, la culture de... Ben, puis on pourrait faire le pas dans... Puis retourner au Impact CF Montréal puis à n'importe quel club, OK?
Fais attention, toi, fais attention.
Je pars un autre débat. Moi, je veux faire deux chroniques en même temps aujourd'hui. Je veux faire deux segments.
La semaine prochaine, on te reçoit.
Mais c'est quoi une culture? Pour vrai, ça part de quelqu'un.
Mm-hmm.
Ça part de quelqu'un à la tête. Fait qu'il y a certains types de comportements que sur lesquels tu as le contrôle.
Mm-hmm.
J'aurais pu, puis tu sais, je parlais hier avec une cliente de ça. J'ai dit, j'aurais pu dire, bah, c'est pas grave, une fois que tu l'as en danse, c'est pas grave, nanana. Puis j'aurais un autre type de clientèle.
Mm-hmm.
Présentement, est-ce que je pourrais faire encore plus au point de vue sécurité? Oui. Puis je sais qu'il y a des gens déjà qui trouvent que certaines choses, ça gosse, mais ils viennent, puis que je perdrais un certain type de client, puis j'en gagnerais d'autres.
Mm-hmm.
Moi, j'ai trouvé le juste milieu à mes yeux, qui est, je respecte les règles, je fais ce que je pense être responsable,
ouais.
Et pas non plus pour me faire chier.
Mm-hmm. L'équilibre quand même.
À mes yeux.
Ouais.
Exact. Ouais. Fait que ceci dit, c'est sûr que si j'en faisais moins, il y a des clients en ce moment qui débarqueraient.
Mm-hmm.
Puis je gagnerais un autre type de clientèle.
Ouais.
Fait que c'est un... Donc, oui, ben, ce que tu as dit, Étienne, c'est vrai, c'est... ce qui se passe dans un gym, à part, si je dis un incident isolé, s'il y a un incident isolé, que tu fais OK, bon.
Ouais, ouais.
Pendant que je ne regarde pas un client, à chaque fois que je ne regarde pas, il enlève son masque.
Puis t'es pas à l'abri de ça non plus, tu sais, dans le sens où je pense que 141 cas sur une place, c'est parce que c'est pas juste une personne qui a pas d'attention.
Mais tu sais, ton ami qui dit, moi, je suis allé à un gym, puis je retourne là seulement si je suis vacciné, je sais pas qu'est-ce qu'il a vu. Ben, moi, j'ai un ami aussi que je connais qui dit, ben, les gens portent le masque pour rentrer dans le gym, puis après ça, c'est mm-hmm. done. Ben, il y a quelqu'un qui dit, c'est correct.
Exact, exact.
Puis c'est ça. Donc, oui, c'est un... Puis c'est ça qui est tough. C'est qu'après ça, ben déjà qu'on n'avait pas la plus haute cote de popularité ou de, tu sais...
Mm-hmm.
Fait que là, quand tu vois ça, t'en entends un ou deux, qu'est-ce qui risque d'arriver par la suite? C'est ça.
Ben, on le sait pas. Puis, ben, on souhaite qu'au moins, là, les cas montent. Mais, en tout cas, bref. Écoute, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite que...
Écoute, bien apprécié.
Il y a quelques semaines, quelques mois au moins, il y a quelque chose qui soit réglé avec la vaccination et tout. J'espère qu'on ne tirera pas la plug sur les personnes qui font attention, malgré que justement ça entache la réputation de tout le monde quand on voit un cas isolé comme ça. Mm-hmm. Bref, merci beaucoup d'être venu faire une mise à jour. Je trouve ça très cool d'avoir jasé avec toi.
Hey, puis, tu vois, là, je pensais à ça tantôt. Là, j'étais comme genre, yo, ça fait deux fois que je suis d'un bout à l'autre. Je pense que je vais ajouter ça sur mon LinkedIn. Chroniqueur d'un bout à l'autre. Je suis là. J'ai décidé ça. Que maintenant, je suis un chroniqueur à d'un bout à l'autre.
T'es chroniqueur. Plus que deux, c'est chroniqueur. Mets mon numéro de téléphone en référence s'il y a de quoi, je suis là. Merci.
Merci encore de l'invitation, Étienne.
Yes. Ciao. UFC 260, Ngannou contre Miocic, ou plus Miocic contre Ngannou 2 avec Faberglass. Salut, Faber, ça va?
Bonsoir.
Ça va, yes, vraiment, vraiment content que tu sois encore avec moi. Title shot des poids lourds, on avait Stipe Miocic qui défendait sa ceinture face à Francis Ngannou. C'était comme un gros point d'interrogation. Ngannou qui était quand même favori, mais on ne savait pas si Stipe allait comme réexploiter à nouveau les faiblesses qu'il avait démontrées lors du premier combat. Mais on a compris lors du premier takedown que
ça allait pas se faire.
J'ai l'impression que Ngannou a pris la seule clé de Miocic, il l'a pété en deux dans sa face. Puis après ça, il n'y avait pas grand-chose à faire pour le Miocic. Comment tu as vu ce combat-là?
Pas mal de la même façon que toi, je te dirais. Là. Moi, il faut que je te dise le bout que je me suis rendu compte que peut-être que ça irait pas bien finalement. C'est que, tu sais, des fois, tu le sais comment Stipe Miocic, il y a beaucoup de combats, ça fait longtemps qu'il est là. Non, mais l'âge en MMA, c'est tellement un facteur qui est relatif parce que tu peux avoir un Jordan Meehan qui a 30 ans, 31 ans, puis qui est rendu dans Bellator, puis qui gagne même plus là, tellement qu'il est fini parce qu'il se battait pro à 16 ans. Comme tu peux avoir un Yoel Romero qui a 43, 44 ans, puis qui a l'air plus jeune et plus athlétique que tout le monde dans la place. Mais quand j'ai vu que Stipe était rendu à 39 ans, là, j'étais là, ouf.
Ouais.
Tu sais, parce que, à moins d'être justement Yoel, d'être tombé dans une piscine d'ADN différente, tu sais, j'ai l'impression que plus tu vieillis, moins que ta capacité de manger des coups de poing full power de la part de Francis Ngannou augmente.
Ouais. Ouais.
Puis, c'est, quand j'ai vu qu'il avait 39 ans, je me dis, OK, ouais. Il a quand même les skills, il a montré qu'il était incroyable, même s'il est quand même vieux. Fait. Mais j'étais moins sûr. Après ça, il y a eu à peser. Ou encore là, souvent, le plus petit heavyweight, le heavyweight le plus mobile, va tendance à avoir avantage sur le très gros heavyweight. Mm-hmm. Mais quand j'ai vu que Francis avait comme 30 quelques livres sur Stipe, j'étais genre, Puis, comme tu dis, le premier takedown, c'est même pas le sprawl, parce que le sprawl, il était super beau, puis tout. C'est la vitesse dans laquelle il a fait une transition, il est allé prendre son dos. Tu le vois que le gars, dès que Stipe allait se retrouver dans ses jambes, il s'était entraîné pendant de longues heures pour faire exactement ce qu'il fallait qu'il fasse pour se relever de l'eau PC ou de prendre une position dominante. Parce que si du dos, il s'était mis à lancer des coups, comme il a fait un peu, là, justement, c'est ça qui a fait que Stipe, après un bon deux minutes, j'ai personnellement aucune idée comment il a survécu au premier round. Manger un overhand, ben flush un moment donné,
C'était une question de temps au deuxième round.
Comment ça qu'il prend ça? Puis c'est ça, au deuxième round, finalement, il l'a pogné avec un petit crochet qui, encore une fois, Stipe, ça fait comme trois fois là, qu'on le voit se faire passer un KO. Puis les trois fois, c'est... Ben, contre Stephen Struve, je pense que c'était pas un crochet, mais contre DC, puis cette fois-là, c'est un petit crochet qu'il voit pas venir. Puis c'est tout le temps ça qu'il pogne, là, on dirait Stipe. Puis c'est ça qui est arrivé. Là, il s'est retrouvé à terre, même si ses jambes étaient encore au sol. Puis ça a fait que son genou il a plié bizarre. Il a mangé un super necessary à Murphy's. Puis il a perdu sa belt. Puis Francis Ngannou. Tu sais, il y a des gens que tu regardes se battre dans l'UFC une fois ou deux. Puis t'es genre, ouais, probablement un futur champion du monde. Puis ben, c'est ça, je m'étais dit avec Francis Ngannou quand je l'ai vu faire ses débuts à l'UFC. Puis. Ça a l'air que c'est ça qui est ça. Hein?
C'était une question de temps, là, puis Francis Ngannou est un champion tout à fait légitime. La patte en arrière, c'est bon pour les memes. Demi-Osic, malheureusement pour lui, qui semble être apprécié là, un peu de tout le monde, ça a l'air d'être un gentil. Puis c'est quoi tu t'attends justement de la suite pour Miocic? Est-ce que tu penses qu'il va revenir? Moi, je sais pas. J'ai un petit feeling que c'est peut-être la fin. Là.
Ben, ça avait l'air... T'sais, son statement qu'il a laissé sortir une couple de jours, deux, trois jours après le combat, je pense, ça avait l'air de dire qu'il allait revenir plus fort. Nanana. Ce que le fighter dit là, généralement. Mm-hmm. Mais écoute, je pense qu'il va peut-être revenir, je ne sais pas pourquoi. Mm-hmm. Parce que t'sais, c'est comme, il va se revenir, il va se battre contre qui? Genre Curtis Blaydes. Ça va être un combat vraiment très difficile.
Yeah, oui.
Pour rien. Parce que, tu sais, Curtis Blaydes, malheureusement, je sais pas si ça te donne un title shot automatique quand tu le bats, là.
Mm-hmm.
Peut-être que c'était Derrick Lewis, mais en tout cas. Mais Stipe va toujours être à un win de title shot, puis la trilogie va toujours être intéressante. Fait que je pense qu'il y a des, il y a des incentives là, pour revenir, puis essayer d'avoir cette victoire-là pour avoir sa trilogie. Je suis pas vraiment intéressé, moi, là, dans la trilogie, honnêtement. J'ai comme l'impression que t'sais, on les a vus, les trilogies heavyweight, comment ils vont. Puis souvent, t'as un gars qui gagne le premier combat, tout le monde est un peu surpris, puis il se fait vraiment péter les deux autres combats d'après. T'as DC contre Miocic, que ça n'a pas été ça. Même si DC a perdu le deuxième, c'est principalement lui qui gagnait le combat. Là. Mm-hmm. Mais si tu regardes, mettons, Dos Santos contre Cain Velasquez. Là. Après que Dos Santos a battu Cain, quand Cain a mis la main sur lui, ça n'a pas été drôle pendant les 50 autres minutes de cette trilogie-là.
Non, c'était pénible. C'était vraiment pénible.
Oui, exactement. Fait que, t'sais, je ne sais pas si j'ai envie de voir Stipe Miocic manger un autre KO violent à 40 coques. Parce que là, il a réussi à avoir son rematch de cette trilogie contre Francis Ngannou.
Oui. Okay. Ngannou, le combat logique qu'on entend, c'est John Jones, mais là, man, je sais pas ce qui se passe avec ce gars-là. Il part dans tous les sens. Allez vous abonner au Twitter de John Jones pour avoir des nouvelles ou pas. Ouais, c'est ça, on sait pas ce qui se passe. Logiquement, ça devrait être John Jones, mais sinon, si ça fonctionne pas avec John Jones, on lui donne qui?
Bon, c'est Black Beast.
Ouais, pas joué.
Même si. Je me demande, par exemple, j'ai l'impression que ton marketing pourrait marcher pour ce combat-là si tu fais juste dire ces deux gars-là nous ont livré le pire combat de l'histoire de l'UFC. Ouais. Il n'y a aucune chance qu'ils fassent ça deux fois.
Mm-hmm. Ouais. Écoute, c'est, ben oui, puis pas le choix parce que c'est il vient de battre Curtis Blaydes. Grosse performance avec Derrick Lewis devrait, logiquement. Sinon, si John Jones est là, est-ce que toi tu vois un Lewis Gann pour en demi-finale?
Ouais, ben c'est Lewis, il accepte n'importe qui. Là, ouais, lui, s'en fout. Probablement, ça serait ça le combat qui ferait le plus de sens. Je pense que si tu peux donner ce combat-là à John Jones, si tu réussis à t'entendre avec John Jones sur les termes financiers, mm-hmm. tu donnes ça à John Jones.
Faut le faire,
c'est
faut le faire.
Plus gros combat heavyweight de l'histoire de l'UFC. Ouais. Puis c'est le combat contre Stipe. Il y avait comme le cachet là, du meilleur heavyweight de tous les temps contre probablement le meilleur combattant de tous les temps. Puis c'est intéressant, mais la dynamique de l'âge puis tout, je pense, ça fait que j'aurais pas le choix de favoriser John Jones dans ce combat-là. Puis contre Francis Ngannou, honnêtement, j'ai l'impression que c'est le combat qu'on n'a jamais vu entre John Jones puis Anthony Johnson, mais genre la version vraiment boostée d'Anthony Johnson. Là.
L'évolution.
Genre pas le Anthony Johnson qui va se faire takedown deux fois puis va dire « Ah, prends donc mon coup, Big, là, je t'en ai, choke-moi. »
Non, c'est, pour vrai, je pense que tout le monde veut voir ce combat-là puis ça serait juste complètement fou, mais là, faut que l'UFC donne à John Jones ce qu'il veut ou qu'il réussisse à négocier. C'est ça, le nerf de la guerre. Je veux parler de Tyrone Woodley contre Vicente Luque. J'ai aimé le Tyrone Woodley des deux premières minutes. Juste quand le clinch s'est défait puis que Woodley s'est comme réveillé, là, j'avais l'impression de voir un vintage Woodley contre genre Just Koscheck ou même le Woodley qui est allé chercher la ceinture contre Robbie Lawler.
Ouais, mais on ne l'avait pas vu de même depuis le combat contre Robbie Lawler.
Puis là, il s'est fait snapper par Luque, puis c'est 4e défaite de suite pour l'ancien champion.
Ouais, puis c'était son dernier combat dans l'UFC, vous et moi. Là, parce que son contrat est terminé, puis ça reste Tyron Woodley. C'est pas un gars que tu vas payer 20 000$ pour se pointer. Là, c'est un 5 fois champion welterweight de l'UFC. Fait que le gars mérite la bourse qu'il mérite. Puis l'UFC a l'air d'être pas mal dans le mood de quand tu commences à être un peu vieillissant, même si t'es encore un top 10 fighter. Ils ont pas vraiment envie de te payer. T'sais, les Overeem, les Dos Santos, on a vu ça. T'sais, avec même Corey Anderson, ils voulaient pas le payer. Fait qu'imagine comment ils paieront pour le chum Tyron Woodley. Gros, il va à PFL, il peut peut-être gagner 1 million. Ça ne me surprendrait pas. Il est capable. Le calibre va beaucoup descendre. Puis tu sais, moi, comme tu dis, j'ai aimé ce que j'ai vu. Je trouve ça plate pour lui. Là. Je trouve ça vraiment plate parce que c'est comme le combat où tu décides d'ouvrir la machine puis il faut pas parce que Vicente Luque, il a un granite chin puis il va juste manger tes punches jusqu'à temps d'avoir ton timing. Puis on a vu que... Tu sais, moi, j'ai même pas vu de changement dans Woodley. J'ai juste vu un changement dans Luque. C'est bon, je pense que j'ai le timing. C'est mis à lancer des counters puis il te l'a pogné flush à toutes les fois. Puis moi, un gars qui drop quelqu'un, man, puis qu'au lieu de le finir, il l'étrangle.
Ouais, c'est autant.
Ça, c'est mon genre de fighter, man. Vicente Luque, c'est mon boy. Je l'adore, ce combattant-là. Il est tellement excitant. C'est un gars qui...
j'aime beaucoup.
Quand il est arrivé dans l'UFC, je pense qu'il y a une fiche de 7 victoires, 5 défaites. Okay. Avec une nulle. Puis depuis, il a perdu son premier combat dans l'UFC contre Michael Graves. Puis depuis, il a 13 victoires, 2 défaites. Ces 2 défaites étant contre Leon Edwards puis Stephen Wonderboy Thompson.
OK.
Fait qu'on s'entend qu'on est rendu avec un combattant élite là, en Vicente Luque, puis tu peux lui donner n'importe qui. Je pense que c'est qui est ça le match-up qui fait le plus de sens. Là. Ouais. Mais tu lui donnes n'importe qui dans ce top 10-là, puis ça va être le fun. Puis, tu sais, c'est un combattant qu'il est très dangereux, mais il y a des manières de... Tu sais, Edwards l'a montré, si tu réussis à vraiment le takedown par le contrôle au sol, tu vas réussir à avoir du succès contre lui. Wonderboy a montré que si tu réussis à rester at range, puis t'assurer qu'il ne time jamais... Tu peux l'outstriker. Fait, c'est un match-up qui a de quoi à faire pour un combattant du top 10 qui est très bon, qui va assurément être excitant parce que Vicente Luque ne sait pas ne pas être excitant. Fait, je pense que c'est un match-up que genre tu pourrais baiter des top guys à prendre.
Mm-hmm.
Chose qui n'arrive pas à 170 livres. Que Colby ne veut pas se battre contre Leon Edwards. Leon Edwards ne veut pas se battre contre Gilbert Burns. Gilbert Burns ne veut pas. Toutes les tops ne veulent pas se battre ensemble. Walter, il y a juste Wonderboy qui veut se battre. Puis personne ne veut se battre avec Wonderboy parce qu'il va rester à range. Puis il va te pick apart avec ses petits kicks. Puis son jab. Puis ses affaires bizarres. Puis on ne sait même pas si ça va être un bon combat. Puis tu vas probablement perdre parce que Wonderboy Thompson, même s'il est vieux, il est absolument excellent. Puis fait qu'il n'y a personne qui le veut, ce match-up-là, vraiment. Puis, tu sais, les autres qui sont vraiment à game de se battre tout le temps, c'est Neil Magny. Puis, ces gars-là, mais tu gagnes rien à battre un Neil Magny quand t'es 3 ou 4e au monde. Fait que c'est compliqué. Fait que peut-être qu'un Luque dans le top, ça va donner envie à une couple de gars de prendre ce match-up-là. Puis, comme je te dis, c'est un bait parce que tu peux le gagner, mais man, tu peux te faire allumer sur un sale tap. Puis, il va probablement t'étrangler après. Fait que...
Hey, il l'a traversé. Perte d'équilibre, puis rouler de la face dans la cage, c'était magique. Sean O'Malley. Qui réussit son retour. C'était blessé contre Chito Vera. Là, TKO ou KO contre Thomas Almeida. Qu'est-ce que tu as pensé de Sean O'Malley? Je l'ai trouvé tranquille. Là. On dirait qu'il voulait peut-être moins prendre de risques. Il a eu il a essayé de walk out sans que ce soit un vrai KO. Ça a été. J'ai trouvé combat bizarre, mais quand même retour réussi pour le prospect Sean O'Malley.
Ouais, ben c'est sûr que tu sais, c'est comme il se battait contre le fantôme de Thomas Almeida, là, donc il n'y avait pas vraiment le choix d'être impressionnant.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, je dis tout le temps la même chose dans le cas de Sean O'Malley. C'est un elite striker, c'est un sniper. Il est vraiment très bon dans ce qu'il fait. Mais tant que je ne l'aurais pas vu dans un match-up qui va le forcer à ne pas se battre dans son style, je ne peux pas vous dire « Ah, ça, c'est le prochain title challenger ou le prochain ci ou le prochain ça. » Parce que, tu sais, man, à 135 livres, là, tu vas pogner un Mirab de Valishvili ou un Ricky Simon ou tu sais, qui vont essayer de te take down 34 fois dans le combat. Ou juste ce Cody Stamen qui va... Tu sais, prendre aucun risque, puis être efficace, puis se battre dans tous les aspects, ou un Jimmy Rivera, tu sais, ou un... Puis, autant c'est une division avec beaucoup de strikers, autant Peter Yan va être bien content de te take down, de te sacrer des coups de coude dans la face, Dominic Cruz, la même affaire, Corey Sandhagen, la même affaire, Frankie Edgar, la même affaire, José Aldo, s'il n'y a pas le choix, il va le faire. Fait que oui, c'est tous des strikers, TJ Dillashaw aussi, tu sais, c'est un lutteur à la base, TJ Dillashaw. Donc, tant que je ne l'aurais pas vu défendre des takedowns pendant tout un combat contre un bon combattant et gagner, je vais toujours avoir mes réserves par rapport à Sean O'Malley. Comme je l'ai à chaque fois qu'il y a un striker super excitant qui arrive de même. Puis, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de McGregor dans le nez. Là. Genre, côté style, coup de la manière qu'il se bat. Puis, fait, je vais toujours avoir des questions contre les lutteurs. Puis, je pense que l'UFC va tout faire en son pouvoir pour le monter le moins possible contre des lutteurs. Mais là, on parle peut-être de Dominic Cruz.
Oui, j'ai vu ça. Ça va être, c'est le pire match-up pour. Ben, pas le pire, mais c'est pas un bon match-up pour O'Malley.
Ben, si tu veux tester ça, c'est le temps. Exact. C'est là que tu vas le savoir.
Il s'est pas battu contre aucun top 15. Tu sais, dans le sens où on a beau l'hyper, on a aimé ce qu'on a vu.
Il rank Chito 15e à l'UFC. Fait que, tu sais, mais. Non, basically, il n'a pas affronté de combattant élite.
C'est ça. Quand même bien hâte de voir. Il est flashy, il vend. Entre les deux oreilles, c'est peut-être autre chose, mais tu sais, au moins, il est là, puis il offre des bonnes performances, puis flashy pour l'instant, mais j'ai hâte de voir effectivement contre un top 15.
Pour le casual fan, il n'y a pas mieux que Sean O'Malley.
Non, c'est carte, parfait.
Là, il va faire du striking, ça paraît super beau, super technique. Il va avoir un flashy knockout à la fin. Va dire de la sauce avec un peu d'attitude là, à son entrevue, puis voilà, je l'aime, ce gars. Là. Faites juste pas écouter son podcast, vous allez trouver que, que finalement c'est une moins bonne personne que vous pensiez pendant qu'il parle d'héroïne avec son bébé dans les mains.
Oui, puis il est pas. C'est quoi, il est pas stupide? Il tombera pas accro parce qu'il est pas stupide, c'est ça?
Ouais, c'est ça, exactement. Lui, il peut pas tomber accro à l'héroïne parce que dans le fond, c'est juste pas un cave. Là, tu comprends?
Ben oui, classique.
Parce que dans le fond, si tu tombes accro à l'héroïne, t'es un imbécile. Là.
C'est juste ça.
Aucun autre facteur qui peut contribuer à ça, ni réalité. Ah, ouais. Juste vraiment un attardé mental.
Contentons-nous de le regarder dans l'octogone. Je vais terminer cette carte-là en parlant de Marc-André Barriot.
Yep.
Pas le choix. Quel bon combat. Moi, j'ai vraiment, à la fin du deuxième round, quand les deux gars sont complètement gaz out, moi, j'ai adoré. Moi, j'aime ça, là, tu sais, voir des gars qui se tapent, ça a l'air difficile, mais ils font quand même. Puis, c'est au moment où j'ai vu les deux debout. Au début du troisième round, j'ai dit à ma copine, c'est Barriot va gagner. Je ne sais pas si ça va être un finish, mais Barriot est clairement plus... Abou, il tenait il tenait pas debout. Il était juste pas capable de, ouais, de se tenir debout.
Il était fini à bout. Fini, ça allait plus bien, là.
Puis, ben, Mario qui l'amène. Mais moi, je pensais que c'était fini au moment où, à bout, il avait juste les deux bras à terre, là. Je m'attendais à ce que... En tout cas, même Mario a l'air d'avoir figé. Ça a fini à terre. Ground and pound pendant 4 minutes. Puis finalement, il reste 4 secondes. Puis l'arbitre avec le combat.
Ouais, Jaren, il a pas super bien fait sa job dans ce combat-là, malheureusement. Là. Mais Chris, ouais, Mario, man. C'est exactement ça qu'on avait besoin de voir.
Ah, c'est hot.
Parce que, tu sais, il y a des... Puis oui, Marc-André Barrio, faut dire qu'il y a bien du monde qui parle de sa fiche dans l'UFC. Nanana. D'autres, là, il a pogné Andrew Sanchez puis Christophe Jotko à ses deux premiers combats.
C'est fou, man.
C'est pas des cadeaux, tu comprends?
Mm-hmm.
Fait que, puis après ça, il a pogné John Yun Park, qui est de loin probablement un des pires adversaires qu'il a affronté dans toute sa carrière. Puis, tu sais, il s'est pas présenté, là, ce combat-là. C'est vraiment pas beau. Fait que le fait qu'à ces deux derniers combats, on a vraiment revu le bon vieux Barrio de TKO qui, tu sais, c'est que j'ai un peu vu le changement, dans le fond, quand il a gagné la ceinture à TKO. Puis qu'il a dit, tu sais, il s'est dit, OK, maintenant je suis champion. Fait que, tu sais, je peux un peu plus laisser mon adversaire venir à moi, puis essayer de répondre, tu sais, à ce qu'il m'offre. Puis on dirait que ça a marché à TKO. Il a réussi à avoir des finishes quand même rapides. Fait qu'il a un peu gardé cette approche-là à son arrivée dans l'UFC. Puis il s'est rendu compte que si tu laisses Andrew Sanchez venir à toi, il va te coller dans la cage pendant 15 minutes. Puis si t'es pas le meilleur des lutteurs, ben, pas grand-chose que tu peux faire. Puis oui, Andrew Sanchez, c'est un excellent lutteur. Donc, t'en trouveras pas des bien meilleurs que ça dans l'UFC, puis vraiment ces deux derniers combats, puis ça coïncide aussi avec son retour à Gatineau, là. Ça, il faut se le dire, avec Sifu Pat qui est absolument incroyable, Julien qui est un des partenaires parfaits qu'il ne peut pas avoir, tu sais, côté grandeur, grosseur, catégorie de poids, même chose pour Dave Leduc, là, c'est tout, les trois gars sont dans le même range, s'entraînent ensemble depuis qu'ils sont tout jeunes, se connaissent vraiment bien, puis c'est ça, on a revu le Barrio agressif. Parce que Barrio, il peut pas se faire d'illusions quand je vais être plus technique que mon adversaire. Je vais être... Marc-André Barrio, c'est un combattant physique. Il veut rendre ça ugly. Il veut aller de l'avant. Puis le fait même d'aller de l'avant, même si son volume, des fois, est pas incroyable, ça fatigue ses adversaires.
Mm-hmm.
C'est un combattant que tu peux pas... Tu sais, il y en a, ils vont essayer d'aller de l'avant. Tu peux juste comme circle, pogner une petite angle, puis là, tu vas changer le momentum sur eux. Barrio, quand il va de l'avant, t'as... c'est une force qui arrive vers toi, puis il est rough, puis il va essayer de rendre ça lettre. T'as pogné dans le clinch, t'as sacré des uppercuts dans la face, puis il a l'air plus conscient que c'est ça son bread and butter, puis c'est ça qu'il va faire, qu'il va gagner des combats dans l'UFC depuis deux derniers combats, puis il s'est juste laissé aller, dans le fond. Lui. C'est juste, il a dit, tu sais, il sait. Puis aussi, c'est vraiment un maître dans l'art de se battre gazout, là, Marc-André Barrio. Là. Genre, tu sais, c'est un art, ça. Il y a des combattants, des fois, ils gazout, puis là, leur game fall apart complètement. Comme Abou Azatar, là, au troisième round, là, on a beau dire que c'était bizarre ce que l'arbitre a fait, mais quand tu perds ton mouthpiece, là, continue à te battre. Là. T'as pas les... Pointe pas ton mouthpiece en regardant l'arbitre, il va arriver quelque chose, tu comprends?
Il a oublié son mouthpiece aussi entre la deuxième et le troisième.
Exact. Moi, ça, c'est des signes d'un combattant qui est fatigué puis qui s'est plus trop donné de la tête, qui est plus dans son combat. Barrio était fatigué, oui, mais son output n'a pas diminué. Il a continué à aller de l'avant, à se battre, à lancer du volume. Puis non, c'était pas aussi beau qu'au premier round parce que justement, c'était un peu plus sloppy parce que c'était fatigué, mais c'était efficace. Puis au sol, c'est fou comment. Barrio est vraiment plus willing que Charles, le Jourdain de l'Under Takedown, il faut se le dire. Mais c'est fou comment les deux vont préférer se battre debout, puis à la seconde près que le combat va aller au sol, puis ils vont se retrouver sur le top. Ça va changer du tout au tout, puis ils vont avoir un finish.
Oui, puis il y a comme une parenté dans les deux combats, là, entre Charles Jourdain et Marc-André Barrio, là, comme perd le premier round, laisse le gars venir, laisse le gars un peu se fatiguer, deuxième round mitigé. Moi, je l'avais donné à Jourdain le deuxième round, c'est ce que les juges vous ont donné. Puis troisième round, il explosait carrément. Là, les deux combats ont comme dans la physionomie, ça ressemble quand même pas mal.
Exact.
Barrio qui a callé out respectueusement Eric Anders. J'aime beaucoup, pour une raison que j'ignore, Eric Anders. Je veux voir ce combat-là. Ça va être ça va vraiment très
cool. Je pense que c'est un combat piège un peu, mais c'est un combat qu'il faut qu'il arrive. Ouais. Parce que dans le fond, si tu regardes les deux combattants, Marc-André Barrio est bien meilleur qu'Eric Anders. L'affaire, c'est que tout le monde est meilleur qu'Eric Anders. Tout le monde ne gagne pas contre Eric Anders. Parce qu'Eric Anders, c'est un super athlète qui a joué au football collégial, puis quand il est tanné de se faire péter à gueule, il peut juste flipper une switch puis se mettre à démonter son adversaire, même s'il n'y a aucune technique, même s'il n'y a aucun rien, genre juste par le fait qu'il est gros puis il est physique. L'affaire, c'est qu'il est absolument pas capable de sustainer ça sur 15 minutes. Mm-hmm. Fait que si Barrio est capable de survivre à ça, il y a des bonnes chances de gagner ce combat-là. Le problème, c'est que tu sais, même des gars super tough et durables comme Darren Stewart. Oui, on sait qu'il y a eu les legal knee et tout, mais il était très, très, très proche de se faire finir, Darren Stewart. Puis Darren Stewart, c'est pas un gars qui se fait finir. Mm-hmm. Encore moins par strike. Donc, je pense que c'est un combat que Barrio peut gagner, mais il va nécessairement avoir un moment super sketch où Anders va genre s'écœurer puis passer à ça de le finir. Puis il va peut-être être capable parce que c'est Rick Anders puis c'est le Ovin Saint-Preux des middleweight. Le gars, il n'a aucune technique. Il est 100% athlétisme. Mais quand il décide qu'il va juste être gros puis qu'il va te ruffer, ben il va être gros puis il va te ruffer. Tu sais. Mm-hmm. Il n'y a personne qui a... À part justement des... Tu sais, Lyoto Machida avant qu'il ne soit plus dans son prime. Puis ouais. On a pas vu des gars vraiment bien handle Eric Sanders ou Thiago Santos qui est genre ah ouais, tu vas être gros physique puis jambon, let's go, soyons gros physique et jambon, tu sais.
Ouais. Non, clairement. Si ça se fait, ça peut être vraiment difficile justement, mais je veux voir ce combat-là. Il y a deux événements seulement. Il n'y a pas d'événement ce soir, samedi. Il y a deux fight night avant le prochain pay-per-view. Le premier, c'est pas Till contre Vettori, c'est Holland contre Vettori parce que Darren Till s'est blessé. Kevin Holland emmerde l'UFC parfois pendant ses combats, mais bon company man, il est là. Puis il back up, puis il combat, puis il veut fight. Ça va être un bon match-up contre Vettori.
Écoute. ça me fait tellement rire, ce match-up-là, parce que on apprend que Darren Till est blessé, puis là, à la seconde près qu'on attend ça, t'as Kevin Holland qui est là. Oh, m'a le pogné, cette fight-là. M'a le pogné. Ça a quand même pris une couple de jours avant que ça soit rendu officiel. Je me demande vraiment pourquoi. On dirait, je suis pas sûr que l'UFC était là. Oh ouais, on va te relancer dans un main event.
Suite un mois plus tard.
Vas-y, tu sais. Ouais. Mais ils ont probablement pas le choix parce que Kevin Holland, c'est le seul gars, c'est cave pour pogner Marvin Vettori à short notice de même. Quand Vettori est littéralement à feu là, par les tachico. Puis, tu sais, tu parles d'un combattant qui était littéralement fuck-all quand il est arrivé dans l'UFC. Puis, qui s'est transformé en un bon combattant assez legit. C'est sûr que quand t'es le punching bag personnel de Kelvin Gastelum pendant 2-3 ans, ça t'améliore un peu. Je pense que Marvin Vettori, c'est un peu le Drew Dober des middleweight. Là. Il souffre du succès de son training partner principal. Là.
Mm-hmm.
Ouais. Mais, man, je sais même pas quoi penser de cette fight-là, honnêtement. Parce que, tu sais, Kevin Holland est vraiment excellent debout, mais il nous a montré qu'il y a comme une assez grosse lacune au niveau de la défense de takedown. Puis Vettori n'est pas le lutteur que Derek Brunson est, parce qu'il y a comme peut-être un autre gars dans la division qui est le lutteur que Derek Brunson est, puis c'est encore là. C'est peut-être même pas parce que Yoel n'est plus un middleweight. Là.
Mm-hmm.
Mais tu sais. Je sais même pas quoi il parle, quoi penser.
Ben écoute, ça,
c'est
ça,
bizarre.
Ça va être
le
monde
qu'on a, peut-être que si Kevin Holland parle plus, il va peut-être gagner ce combat-là. Puis ça, je suis complètement en désaccord parce que Kevin Holland, quand il parle puis il gagne, là, c'est le gars le plus awesome du monde. Mais quand il parle puis il perd, le monde dit qu'il devrait fermer sa gueule. Mais j'ai l'impression que s'il fermerait sa gueule, ça serait probablement genre montrer à son adversaire qu'il l'a comme un peu shaké mentalement parce que Kevin Holland est là puis il parle.
C'est
pas,
sa game, là.
C'est ouais. Weird, là, ce combat. Ouais.
Bref, j'ai hâte de voir ce match-là. Ce match-up, une couple de bons combattants, bon match-up. J'ai hâte de voir Sadiq Youssouf, là, 11-1, je pense, en Feather.
Ouais, ça, Sadiq Youssouf, là, c'est quand tu parles de potentiellement un prochain title challenger, c'est Sadiq Youssouf.
Mm-hmm. Jim Miller qui a comme 300 ans. Je comprends pas ce gars-là, comment il combat encore, mais écoute, let's go. Le prochain, avant le pay-per-view du 261, c'est Whittaker contre Gastelum. La carte n'a pas été encore formée, mais c'est Gastelum qui remplace Borrachinha, c'est ça?
Exactement.
Ça, le combat qui aurait dû se faire en 2018-2019, autour dans ces années-là. Pour...
Wow, ça aurait pu être un title fight. Ça.
Exact. Mais bon, ben pour eux, j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir ce combat-là. Gastelum qui a gagné son dernier combat, il n'y a pas vraiment le choix. Là. Il était à trois défaites de suite. Puis Whittaker qui est Whittaker. écoute, je sais pas quoi penser de ce match-là, autre que j'ai juste hâte de voir ça.
Moi, je pense que Bobby va se faire du plaisir. Là, cette soirée, c'est ça. Je pense que c'est un autre. Tu sais, Bobby Knuckles, c'est Joseph Benavidez pendant le ring de Demetrius Johnson, là, ou c'est Raya Faber pendant le ring de Dominic Cruz. Là, il n'a probablement pas un autre dans la division qui peut vraiment toucher à Robert Whittaker. À part justement un Paulo Costa qui lender là, qui punch en début de combat ou de quoi. Mais je pense pas que sur 15 minutes ou sur 25 minutes, si le combat dure ce temps-là, Paulo Costa, je pense pas qu'il pouvait battre Robert Whittaker. Gastelum, il revenait qu'une victoire à son dernier combat. Est-ce que ça me fait dire qu'il est back?
Je pense pas.
Pas vraiment. Puis, tu sais, je vois mal comment Bobby peut perdre ce combat-là. Il est tellement bon, là, Robert Whittaker. Il est tellement incroyable, tellement excitant. Tu sais, pour les hardcore fans, là, s'il n'est pas dans ton top 10, là, ce combattant-là, je ne sais pas qu'est-ce que tu checkes, man. Parce que tabarnouche, il est bon, il est excitant, il fait tout. Il est malade. Yeah. Ça, c'est un gars que jamais je vais manquer de ses combats, là, sous aucun prétexte.
Ça va être c'est un bon match-up. Le reste de la carte, un petit peu moyen, en tout cas, avec ce qui est annoncé. Mais juste le main event, c'est du All-Star. Merci beaucoup, Faber. On se reparle dans la semaine suivant l'UFC 261. On va avoir trois ceintures. Ça va être malade. Ça va être très cool. Dans un aréna full pack qui s'est vendu
Super
en 10 minutes.
Super spreader event. Let's go.
C'est là qu'on va voir. On va savoir 10 jours plus tard. Quand on va se parler, on va avoir une idée si c'était une bonne idée ou pas.
Exact. Mais c'est sûr que c'est pas une bonne idée. C'est sûr.
Non, il n'y a aucune chance.
Moi, je suis pour le retour à la normale. Puis tout, j'ai vraiment hâte. Puis ça serait n'importe où ailleurs. Puis je serais genre, OK, potentiellement que ça va être bien fait. Mais tu penses vraiment qu'ils vont aller à Jacksonville en Floride puis que ça va être bien fait, toi?
Il y a aucune chance.
On est en Floride, le big, là. C'est ça.
Au moins, c'est les plus loin de nous qui peuvent être aux États-Unis, quasiment, à moins qu'ils soient au Texas. On se croise les doigts qu'ils restent loin de nous autres parce que c'est pas... non, c'est pas une bonne idée. Merci beaucoup, Faberglass. Puis on se reparle au prochain pay-per-view.
Ça me fait plaisir, comme toujours.
Jeudi dernier, c'était le 1er avril, donc la journée du poisson d'avril, et j'ai trouvé la personne toute désignée pour venir nous raconter ou nous recenser les meilleurs gags d'organisation de sportifs. Donc Mathieu Dastou est avec nous. Salut Mathieu, ça va?
Salut Étienne, ça va bien toi?
Ça va très très bien, je suis vraiment content que tu aies accepté, surtout à la très dernière minute, comme je te l'ai demandé, c'est vraiment très apprécié.
Ben, on dirait que c'est une tradition entre nous deux qu'à chaque fois que je fais un podcast avec toi, c'est à moins de 20 heures d'intervalle.
Oui, c'est ça. Le 1er avril, j'ai texté Mathieu, je lui ai dit « Peux-tu m'appeler le plus rapidement possible? » 10 minutes après, on avait l'appel, tout était seté. Je veux juste dire, il y a un petit demi-seconde de décalage quand on s'entend. Donc, mais je pense que ça va être quand même très, très bien. Là, je voulais juste avertir les gens que c'est pas Mathieu qui a un petit retard, c'est vraiment l'Internet. Ça se trouve... donc Mathieu, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des petites perles. Qu'est-ce qui a retenu ton attention?
Mais c'est ça, à chaque année, on a toujours droit à des bons petits gags, des bons petits pranks de la part des différents gestionnaires de médias sociaux, des pages sportives. Mais je trouve que c'est étrangement cette année, même si on est tous à la maison, on a beaucoup de temps, je trouve que ça a quand même été calme. Mais néanmoins, on a eu des bons gags. Mais tu sais, le 1er avril, te rappelles-tu au primaire, là, quand tu collais un papier, botte-moi le cul à ton ami qui n'aime pas ça sans toucher, là?
Oui,
le bon
oui.
Vieux temps, là. Donc, on est tous adultes, on a tous accès à les médias sociaux. Une grosse opportunité pour les gestionnaires de pages de médias. Et je vous ai recensé les petits bijoux de cette année. Alors, je vais y aller en...
Juste avant de commencer, Mathieu, je veux savoir, c'est quoi pour toi le meilleur gag? Pas dans le gag en tant que tel, mais est-ce que tu veux que ce soit tellement gros qu'on y croit pas, ou sur la ligne, ou juste quelque chose que tout le monde croit puis finalement c'est pas vrai, là. Tu sais, c'est quoi pour toi le gag réussi?
Ben ça dépend du niveau, parce que ça peut être un gros gag, que autant le petit gag comme mettons juste me dropper comme Harry Novio, il est jamais parti, il a pas trouvé son passeport.
Ouais.
Il est à Montréal depuis 2018. Non, mais non, mais autant une petite affaire de même qu'un gros gag où c'est que tu me sors 8 pages. Je suis comme, ben voyons donc, Aguero est à Montréal. Aguero est à Montréal.
Ok.
Moi, Dès que c'est drôle, je suis tellement naïf.
C'est parfait.
Je me fais prendre
c'est
par
parfait.
Fait que moi,
j'adore.
Je lis à tout là-dedans.
j'adore.
Mais j'aimerais commencer ma mini-chronique avec une mention honorable.
Okay.
Au podcast Les Trois Lions, qui ont fait le contraire des Frères Stachny et qui ont passé à l'Est. Effectivement, le nouveau podcast Les Trois Fromages. J'ai hâte, hein, s'il vous plaît, qui sera le premier Gouda d'or de la semaine. J'ai encore plus hâte de savoir quelle ville d'Italie est une station balnéaire. Et je ne parle pas de la chanson du groupe André qui nous dit pas faire la chanson Yolande Wong, mais bien du lieu de séjour en bord de mer. C'est ça, merci les Trois Lions.
OK, on commence fort. Oui, les Trois Lions sont devenus les Trois Fromages. C'est le goût d'adore, j'adore. Oh, wow.
Oh. Non, mais tu sais, justement, tu me demandais les gros, les petits gags, mais tu sais, comme ça, genre, tu sais, je l'ai juste lu, puis j'ai juste dit, ben non, regarde.
Ben, tu sais, c'est ça le but, c'était juste un clin d'œil, on s'est dit, on va faire notre truc nous aussi, puis tu sais, je pense que personne n'y croit, puis c'est un peu ça le but, là, mais tu sais, un petit clin d'œil sympathique.
C'est ça, là, je vais y aller avec le contraire, parce que hier, quand je me suis levé, j'ai pas trop réalisé quelle journée on était. Fait que, tu sais, mm-hmm. Moi, comme bon millennial de la dernière batch, je me réveille, cellulaire, puis je check Facebook, qu'est-ce qu'il y a après. Puis là, je vois juste un communiqué officiel de la EFL One, la troisième ligue anglaise, qui dit, je vais te le lire, hein, je vais faire une traduction un peu libre en même temps, okay, qui dit « Termination of 2020-21 League One Season », donc la fin de la saison 2020-2021 de la Ligue 1, en raison de la montée des cas de COVID à travers la Ligue. Ils ont fait la difficile décision de terminer la présente saison avec 1,86 points et 1,81 points par game respectivement. Nous aimerons féliciter Sunderland et Peterborough sur leur promotion automatique en championship. Hull, Lincoln, Portsmouth et Blackpool vont s'affronter dans un tournoi de style play-off durant le week-end du 15 et 16 mai. On aimerait s'excuser à Gilliam FC qui, malgré leur quatrième place, est-ce que j'ai le droit de sacrer ici?
Ouais, fais ce que tu veux. Ouais, ouais.
qui, malgré, occupe la quatrième place, ne sont pas dans les playoffs parce qu'on s'en calisse d'eux autres.
C'était pas écrit comme ça exactement, là.
Oui, oui, c'est « We don't care about them ».
OK, ouais.
mais je me sais prendre parce que c'est une page de meme sur Sunderland qui s'appelle « Sunderlad ». Donc, avec encore de la croûte dans les yeux, tu te fais prendre assez facilement, tu ne vois pas. Mais tu sais, quand j'ai vu qu'on s'en calissait de Gilliam FC, je vais te dire, ah, tabarouette, je me suis attendu.
Ouais, là, à la fin, comme ça, là, il y a des bonnes chances que la ligue au complet. Puis, ben, je pense que déjà, Sunderland qui vit une promotion, c'est un gag en soi. Donc, tu sais, j'ai de la difficulté à croire que tu y as cru à partir de là.
Ben, d'ailleurs, j'aimerais faire un shout à Justine Lompré parce qu'en ce moment, c'est 1-1 Sunderland comme Oxford. On fait le match en direct présentement.
Wow! Il faut écouter les Trois Lions pour la comprendre, mais elle est vraiment bonne. Elle est excellente.
Aussi, je poursuis avec un faux tweet. Ça paraissait que c'était pas un vrai tweet, mais c'est devenu un petit meme qui a passé dans différentes pages de hockey sur Facebook que je suis abonné. Alors, c'est un faux tweet de l'ancien capitaine du Canadien de Montréal, Sakou Koivu, qui va comme suit. « Bonjour, depuis toutes ces années, je sais parler en français. Si je ne parlais pas, c'est parce que j'étais trop occupé à prendre une recette de pain maison. »
C'est excellent.
Mais moi, je me demande juste s'il y a vraiment du monde qui a fait comme ah, oh, ben voyons, donc il sait parler français. Pour...
Il y a la ligne, hein. Ben, il y avait bonjour. On l'avait on avait déjà ça.
Bonjour, Montréal, je t'aime.
C'est tout. 11 ans.
C'est tout, hein. 11 ans, oui.
Wow. Plus qu'à 11 ans, 11 ans à peu près. Autour de ça. Ben, une dizaine d'années facile.
Ouais, facile. Ouais, ouais. Aussi, fin mars, je trouvais que le meilleur gag, c'était les sortes de Buffalo qui nous font croire qu'ils peuvent gagner une game. Mais c'est juste moi.
Ils ont été d'avance. Même le timing n'était pas bon.
Ils ont-tu gagné hier ou ils ont encore perdu?
Oh boy, je regarde. Je te dis ça là, à l'instant. Je vais essayer de regarder. On est en mode discussion là, présentement. Hier, le premier, les Sabres ont perdu en prolongation contre les Rangers de New York.
Tout ça pour mettre fin à 18 défaites de suite, en gagner une, puis en recommencer une autre série de 18.
On est parti. C'est quoi le 18? Hey, j'étais pas au courant, mais c'est violent.
Ben, ils ont égalisé le record des Pingouins de Pittsburgh la saison 2003-2004. Le record de médiocrité, c'est 17 ou 18. Et s'ils perdaient la game qu'ils ont gagné contre les Flyers, ils étaient la pire équipe en termes
de médiocrité.
Mais là, ils ont gagné 6 à 1. Tout ça pour revenir à la case go, réclamer.
En prolongation. C'est au moins ça.
Mais leur victoire n'ont pas volé, accès à eux. Aussi, je vais poursuivre avec un shout-out à Gavino de Falco.
Ah oui, j'ai vu ça.
Je vais vous lire son tweet. Selon mes informations, le partenaire majeur annoncé par le président Kevin Gilmore et qui sera annoncé le 8 avril prochain serait nul autre que la multinationale Couchetard. Une entente de principe serait survenue pour l'obtention de changer le nom du stade dès cet été. On a une belle photo du stade Couchetard.
Ça va avec la gestion. Petit salut à Reg qui, pendant des années, a dit que l'Impact, à l'époque, le CF Montréal était géré comme un dépanneur. Donc, on est dans le même monde. Là. Ça va bien.
Mais pour vrai, le stade Couchetard dans le Schlaga, j'ai peur que ça fasse confusion puis que le monde pense que c'est un huge ass Costco dépanneur. Mais regarde, ça, c'est juste moi, regarde.
Wow.
Aussi, je pensais jamais dire ça dans ma vie, mais... Excusez, ça me fait mal, là. Gros shout-out à Tom Brady. gros shout-out à Tom Brady, qui a posté un tweet aujourd'hui qui disait qu'en gros, il était fier d'être un partenaire majeur des Expos. D'être le premier joueur, entraîneur, propriétaire de la Ligue majeure de baseball. Non, mais c'est quand même un joli clin d'œil parce qu'il faut se rappeler qu'il a été repêché par les Expos en même temps que d'avoir été repêché dans la NFL, mais je pense qu'il a fait le bon choix.
Je pense que oui.
Super Bowl, c'est quand même pas si pire.
je pense que oui.
Mais c'est peut-être le meilleur troisième but de tous les temps, on ne le sait pas. Hein,
mais... on le sait pas, mais honnêtement, ça a fait mal celui-là. Là. Pour les amateurs à Montréal, là, c'était un excellent gag, je pense, all over the world, surtout en Amérique du Nord, mais à Montréal, je pense que ce tweet-là fait particulièrement mal aux amateurs de baseball de la ville.
c'est certain, parce que on fait comment? Parce qu'il y a le trois quarts de la ville, mais la moitié de la ville veulent le retour des Expos, puis dans cette moitié-là, il y a la moitié qui a yes Tom Brady.
Ça n'a pas aidé.
Ça n'a pas aidé. Aussi, j'ai oublié, parce que je voulais que ce soit mon premier, mais un énorme shout-out à tes amis des Royals de Montréal.
Oh mon Dieu, quel bon coup.
Quel bon coup qui ont annoncé que l'Impact de Montréal renaîtrait de ses cendres, car effectivement, le club d'Ultimate Frisbee, les Royals de Montréal, aurait fait l'acquisition du branding de l'Impact de Montréal.
Dieu.
Mais aussi, je ne sais pas si c'est ton vu, mais ils ont aussi récidivé avec un deuxième prime dans la journée.
Oui. ça, c'est mon préféré. Là. Avec le montage et tout. Là.
Pour annoncer que Quentin Kevin se joigne au Toon Squad pour succéder à Michael Jordan et LeBron James pour le troisième opus de Space Jam. À noter que Space Jam 2 n'est toujours pas sorti. Donc, ils sont très avant-gardistes.
J'ai vraiment aimé le montage. Tu sais, ils ont fait le montage photo avec Quentin qui a le petit oiseau sur l'épaule, puis avec Bugs Bunny qui tient le disque sur son doigt. Ça a vraiment été du bon boulot. Ouais, ouais, non. Bien, très, très, très bien joué de la part des gens du Royal.
Non, mais ça, honnêtement, sans toi, je l'aurais pas vu parce que tu sais. C'est à cause de toi que j'ai suivi. Parce que t'es animateur, pour ça?
Dans les communications, impliqué dans les activités des communications. Je fais mon stage là. Mais bon, justement, pour dévoiler un petit peu des trucs, le truc de l'Impact, c'était quand même quelque chose qui était... Ça faisait longtemps qu'on y pensait à ce coup-là.
Vas-y,
vends-toi. Non, c'est pas moi. C'est Max qui a tout fait ça, qui a fait le montage aussi avec le texte. Mais tu sais, ça faisait déjà quelques temps. Donc ça, plus les Looney Tunes. Le Royal est assez fort. L'année dernière, je crois qu'ils ont annoncé le jeu AUDL 2020 comme jeu vidéo de frisbee avec vraiment un beau montage de la pochette. Avec les joueurs. Puis l'autre année d'avant, il disait, étant donné qu'il y avait une coupe de Français qui était venu avec l'équipe, ils ont dit qu'il allait s'associer avec le FC Nantes et qu'il allait avoir le chandail vert maintenant comme l'équipe de Ligue 1. Donc, à chaque année, ils surpassent en Photoshop le Royal. Quand même très, très bien joué.
Leur équipe de communication est vraiment solide.
Il y a du bon monde. Il y a du bon monde. Je parle pas de moi.
J'ai pensé avec mes déshonneurs. Parce que, tu sais, le sens créatif, c'est pas donné à tout le monde, visiblement. Mais juste, genre, je peux comprendre, tu sais, comme faire des petites blagues, mais quand que je vois 46 rumeurs d'échange sur Sergio Aguero, à un moment donné, puis après ça, je vois qu'il y a un kid de 14 ans qui a signé au Barça. Le Real Madrid, ils ont signé un char de NASCAR. Là, j'étais comme, à un moment donné, guys.
Oui.
Laissez-nous un break. Tu sais, Allen, je l'ai vu avec toutes les équipes.
Allen, partout. Je pense que les fausses rumeurs d'échange puis de joueurs, je pense que c'est ça qui est moins. Tu sais, qui ça pogne moins, là. C'est plus drôle, je pense. Je pense que de ce que je comprends, on a fait le tour de ça.
Non, mais tu sais, mettons, tu peux annoncer Allen au Barça, c'est comme, ah, ça se pourrait, mais tu ne peux pas annoncer Sergio Aguero au Cavalry FC.
On salue l'équipe de Premier League canadienne.
S'il y a quelqu'un qui s'occupe de la page, trouve quelque chose de plus réaliste.
Oui.
Signer Nigel Eurococker, j'en mais Sergio Aguero, c'est impossible, mes amis.
Le retour de Nigel Eurococker, ça serait excellent. Pour vrai, c'est quasiment mieux qu'Aguero. Ah ouais, ah, c'est hot, là.
Ben, c'est à peu près tout ce que j'avais, parce que comme je t'ai dit, ça a été une calme année, pour vrai. J'ai été un peu déçu. J'ai fait mes recherches, puis honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui est ressorti, mais j'espère que ça l'a couvert à peu près tout ce qui est sorti.
Mais t'as bien dressé un portrait. Moi, il y a des trucs que j'avais pas vus non plus. Puis je pense que moi, ce que j'aime là, des trucs, c'est quand on sait que c'est un gag, mais c'est le 1er avril, puis le monde se sont forcés pour le faire. Là. Pour terminer, j'ai vu l'UFC qui a sorti une fausse bande-annonce d'un documentaire parce qu'il y aurait une mouche qui agace Bruce Buffer à chaque fois qu'il crie, qui fait ses présentations. Puis là, ça s'appelle « Bruce Buffer versus The Fly ». Puis c'est une fausse bande-annonce de 2 minutes et demie sur Bruce Buffer qui dit « Je vais la tuer, je vais la pogner », puis comme vraiment très bien fait. C'est sûr que c'est une joke, mais c'est excellent, puis ils sont forcés à faire le montage, ils sont forcés à faire les entrevues. C'est ça que j'aime bien, là. Comme le Sin Filtro là, de l'Impact il y a 4 ans, je crois, avec, avec la bande qui faisait un band de un boys band. De En tout cas, c'était vraiment pas clair, mais c'était très drôle. Puis quand on le joue gros, il y a de quoi de vraiment très, très drôle là-dessus. On peut bien se relâcher un peu.
Non, mais surtout une organisation comme l'UFC, tu sais, quand il y a sûrement leur documentaire, c'était vraiment plein de suspense, un beau visuel. Puis genre, la mouche est en rouge comme si c'était l'ennemi. Là.
Vous irez voir ça, ils sont donnés, c'était vraiment excellent. Là, parce qu'au début, tu sais pas trop vers où ça s'en va. Puis là, quand tu vois le truc de la mouche, tu fais « OK, ouais, c'est fort. »
Tu sais, trop c'est comme passé, mais une mouche...
Exact. Puis c'est ça, quand c'est gros, les trois fromages qu'on a fait, ça arrivera pas. Là, il y a des trucs comme ça que moi je trouve ça très drôle. Puis c'est la journée pour ça, puis après ça, on passe à autre chose.
Dans l'optique que les trois fromages, c'est un vrai thing, qui prend pour quelle équipe?
Ben, moi, je pense que j'irai avec l'AC Milan parce qu'il y a une autre équipe de Milan.
Ouais.
Justine, ben, elle est allée à Bologne, donc j'irais avec Justine Bologne.
Ben, moi, j'y donnerais peut-être Naples à Justine. Une équipe en bleu.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais tu sais, Justine suit vraiment plus les activités de Bologne, donc ce serait vraiment plus logique que ce soit ça. Puis, mais je donnerais Naples à Bruno. Je sais pas pourquoi. Mais j'irais comme ça.
Tu donnes pas le privilège d'avoir la UV ou
quelque chose. Non, je pense que la UV, non, il y a personne qui va la prendre. Puis, ça fit vraiment dans notre running gag parce que Emilien est un fan de la Roma. Donc, avec Emilien, qui est un fan d'Arsenal habituellement, ça, en tout cas, on a je pense qu'on a quelque chose quand même. Là.
Honnêtement, à un moment donné, genre à l'Halloween, faites un gros spécial, comme si le film était annoncé le même pas, fait juste arriver, bonjour, bienvenue aux trois fromages, avec moi, les trois fromages de la journée. Bruno.
On a quelque chose. On a un concept quand même. On va... J'en parle avec la gang, je sais pas si ça va passer, mais... je note, puis on regarde ça. Ben, Mathieu, merci énormément pour ces 15 minutes passées. C'était, en ta compagnie, c'était vraiment apprécié. Puis on essaie de se retrouver des petits sujets comme ça. Tu reviens quand tu veux.
Oui, ben surtout, donne-moi 48 heures à l'avenir. Oui. Vraiment nice. Mais oui, c'est ça qui est toujours un plaisir de venir jouer avec toi, mon chum. Puis on se retrouve.
Yes. Hey, merci beaucoup. Ciao.
Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission. Oui, je me rends compte que le son de Mathieu, c'était mollo un peu, mais bon, je pense que l'essentiel, on a tout bien compris. J'ai vraiment adoré la discussion avec Mathieu qui a lancé quelques belles piques aux trois lions. Merci Mathieu, merci Faber. J'oublie tout le temps de plugger sa page, là, mais MMA Talk. Si vous voulez des nouvelles sur le monde des arts martiaux mixtes mondial et québécois et canadien, Faber est là avec MMA Talk. J'aime vraiment, vraiment le contenu qu'il offre. Donc, il est très, très bien plugué. Là. Il y avait Charles Jourdain le lendemain de sa victoire. Le lendemain vers midi, 2h. Charles Jourdain est en direct avec lui. Vraiment très bien plugué. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Je vous invite à suivre la page de MMA Talk de Faberglass. Louis, écoutez, si vous habitez sur la Rive-Sud et vous voulez encourager un gym qui respecte les règles, Louis du centre d'entraînement Catalysis est là pour vous. Je le remercie énormément. Johan n'a pas de podcast golf, mais je le remercie aussi. Et on peut l'entendre sur Retour en force, récit sportif, reprise vidéo. La 10e manche sur réception, en fait, il y a un podcast au Club École, Johan est sûrement derrière tout ça. Donc, je remercie les 4 personnes qui ont participé à l'émission. La semaine prochaine, on a Benoît qui revient parler de soccer européen. Il va avoir la première semaine de Ligue des champions qui va être jouée. Si tout se passe bien, je devrais avoir un ou une combattante d'arts martiaux mixtes également en entrevue. Mais ça, c'est si tout se passe bien. Donc, ça semble bien se dérouler, mais je veux pas rien jinxer. Donc, je nommerai pas de nom. Puis sinon, ben, ça va être à remettre. Ça va être pour une prochaine fois, sans problème. Et ça, et bien plus, la semaine prochaine, d'un bout à l'autre. Ciao!